politique, et Fabrice Balanche, maître de conférence en géographie à l'Université de Lyon 2. En attendant, il est 7h sur France Culture. Et voici le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Dans ce journal, nous entendrons des témoignages d'habitants d'Alep en Syrie, grande ville du Nord reprise au régime par les troupes de rebelles djihadistes, des voix entre inquiétude et soulagement.
Et puis nous serons en Géorgie également, où les manifestations pro-européennes et anti-gouvernementales se font de plus en plus virulentes.
En France, retour sur la position de l'extrême droite face à une probable motion de censure qui pourrait acter dès cette semaine la fin du gouvernement Barnier. Après ce journal, Marguerite Caton, quelle question du jour?
Les relations franco-sénégalaises, que sait-on du massacre de Tiaroy?
Réponse à partir de 7h15. La guerre se poursuit en Syrie, quand bien même la tension internationale s'en était détournée depuis plusieurs années. Il aura fallu la reprise de la ville d'Alep, poumon économique syrien, par plusieurs rebelles, dont le groupe islamiste terroriste Hayat Tahrir el-Sham, pour que les médias s'intéressent à nouveau à la situation syrienne où la guerre civile fait rage depuis 2011 sans interruption. Cette reprise d'Alep au régime de Bachar al-Assad, c'est un revers cinglant pour le dictateur syrien, d'autant que tout s'est passé en quelques heures et que les soldats du régime ont également dû quitter d'autres localités plus au sud en direction de Damas. Notre correspondant dans la région, Noé Pignède, a pu joindre des Syriens sur place, des habitants d'Alep, heureux de pouvoir rentrer chez eux, mais inquiets pour la suite. Son reportage.
Dans les régions où le régime d'Assad a été chassé, des milliers de familles célèbrent leur retour après des années d'exil. Mantaz revoit sa ville d'Alep pour la première fois depuis 8 ans.
Je n'arrive pas à réaliser. Ce matin encore, rentrer me paraissait impossible. Et maintenant, je retrouve ma maison, mon quartier, mes voisins. C'est incroyable.
Depuis jeudi dernier, la progression de la coalition des groupes rebelles et islamistes est très rapide. Sur ces images diffusées sur les réseaux sociaux, des combattants avancent le long de la M5, la route qui relie le nord du pays à Damas. Dans les zones désormais hors du contrôle du régime, les habitants restent pour le moment chez eux. Ils craignent une riposte violente d'Assad et de ses soutiens russes et iraniens. Batoul a 24 ans, elle nous appelle d'Alep.
Les magasins sont ouverts mais ils sont déjà presque vides parce qu'il n'y a personne pour les réapprovisionner. Mon grand-père est le seul à sortir mais il ne peut pas aller très loin parce que les taxis sont très chers maintenant. Il n'y a plus d'essence, pas de transport en commun. Bref, la vie s'est arrêtée pour le moment.
Dans un communiqué hier soir, Bachar el-Assad a promis d'éradiquer ce qu'il appelle les terroristes. L'aviation russe, alliée du régime, a commencé à bombarder plusieurs zones rebelles ces dernières heures, tuant des dizaines de civils.
Noé Pignède, on rappelle que le conflit syrien a causé la mort d'au moins 500 000 de personnes. Principal artisan de cette guerre meurtrière, Bachar al-Assad paraît aujourd'hui particulièrement vulnérable et surtout très dépendant de ses alliés étrangers dont il cherche activement le soutien. Tout juste revenu de Moscou, le dictateur syrien a reçu hier le ministre des Affaires étrangères iranien. Mais l'offensive éclair des rebelles et ce qu'elle dit de la faiblesse du régime est une mauvaise nouvelle, pour ses deux parrains historiques, Russie et Iran, par ailleurs accaparés chacun par d'autres conflits. On fait le point avec Louise Baudet.
La Russie, tout d'abord, présente militairement sur la côte syrienne, ce qui lui offre un ancrage en Méditerranée orientale et sur le flanc sud-est de l'OTAN. La Russie a-t-elle la volonté et les moyens de voler au secours de Bachar al-Assad autant qu'il y a 10 ans, alors qu'elle mobilise toutes ses forces dans sa guerre contre l'Ukraine? L'Iran, ensuite, affaibli par le conflit au Proche-Orient, ses mandataires à Gaza, au Liban et en Syrie sont laminés par Israël, notamment le Hezbollah libanais, qui assurait la protection d'Alep pour le compte du régime syrien et a dû gagner le Liban en guerre, offrant une fenêtre d'opportunité aux rebelles. Enfin, dernier grand acteur régional, la Turquie veut se débarrasser de ses 3 millions de réfugiés syriens devenus enjeu de politique intérieure et veut surtout éloigner de sa frontière les autonomistes kurdes. Des groupes pro-turcs combattent d'ailleurs en ce moment les Kurdes dans le nord syrien, en parallèle d'une offensive qui n'a pu avoir lieu sans l'aval turc. Depuis des années, Bachar al-Assad refuse de s'entendre avec Erdogan et il le paie peut-être au prix fort aujourd'hui.
Il est finalement revenu sur sa promesse. Le toujours président américain Joe Biden a décidé de gracier son fils Hunter Biden dans des affaires de détention illégale d'armes à feu et de fraude fiscale. À quelques semaines de son départ de la Maison-Blanche, cette décision suscite de nouvelles interrogations sur l'indépendance véritable du système judiciaire américain, à l'heure qui plus est où Donald Trump a décidé de nommer ses fidèles soutiens à la tête du FBI et du ministère de la Justice. Partons en Géorgie, à présent république caucasienne déchirée entre ses velléités d'intégrer l'Union européenne et l'influence de Moscou. Cela fait 4 nuits que des dizaines de milliers de manifestants pro-européens se rassemblent dans plusieurs grandes villes du pays, dont Tbilissi, la capitale, pour protester contre le gouvernement qui a exclu d'organiser de nouvelles législatives. On rappelle que les dernières élections ont été entachées de fraude, constatées par tous les observateurs présents. L'opposition, déclarée perdante, mais qui estime avoir été lésée, réclame donc de nouvelles élections à l'instar de la présidente géorgienne. Et la colère ne faiblit pas. Au contraire, elle a même provoqué des fissures dans le camp du vainqueur putatif, l'oligarque Bidzina Ivanishvili, à la tête de Rêve géorgien, le parti pro-russe. Des centaines de fonctionnaires ont par exemple signé des lettres pour se désolidariser de sa politique de rupture avec l'Occident. Reportage dans les rues de Tbilissi de notre correspondant Régis Janté.
Il y avait de l'enthousiasme et même de la joie ce dimanche soir dans la manifestation, contrairement aux jours précédents. Et de la confiance aussi, au point de décider qu'une partie des manifestants quitte le parvis du Parlement pour se rendre au siège de la première chaîne de télévision publique, 2 kilomètres plus loin. Georges Saranelli, metteur en scène.
Hier, nous sommes parvenus à entrer dans ce bâtiment pour demander d'avoir une réelle couverture de nos manifestations. La direction de cette chaîne de télévision n'a pas tenu parole. Nous sommes revenus pour demander sa démission et pour que les voix de la contestation soient entendues sur cette chaîne, financée avec l'argent du peuple.
En réalité, le mouvement de contestation a le sentiment que la dynamique est désormais en sa faveur. Il investit donc l'espace en occupant dans la capitale, Tbilissi, d'autres lieux que le parvis du Parlement, siège de toutes les batailles politiques depuis la chute de l'URSS en 1991, mais aussi en s'emparant de la rue dans une dizaine de villes du pays, les grandes comme Batoumi ou Koutaissi, mais aussi de petites, ce qui est très significatif de l'humeur qui règne en Géorgie.
Régis Janté. Et puis en Roumanie, ce sont les sociaux-démocrates pro-européens également qui sont arrivés en tête des législatives hier. Mais l'extrême droite confirme sa forte percée à 31%, une semaine après le succès surprise au premier tour de la présidentielle roumaine du candidat d'extrême droite pro-russe, Calin Georgescu.
La suite du journal d'Anne-Laure Chouin à 7h07 sur France Culture. On a appris hier soir la démission de Carlos Tavares, patron du groupe automobile Stellantis.
Ex-PSA fusionné avec Fiat Chrysler, le patron portugais n'était plus en grâce auprès des actionnaires du groupe qui l'ont écarté. Les ventes de Stellantis étaient en chute libre après des années de succès. On reviendra sur les raisons de cette démission aux allures de licenciement dans le journal de 8h. En France, il est possible que le gouvernement Barnier ne survive pas à la semaine qui s'ouvre. L'Assemblée nationale, en effet, se prononce aujourd'hui sur le très sensible budget de la sécurité sociale. Or, sans vote majoritaire et si le Premier ministre utilise le 49-3, alors une motion de censure devrait être déposée par la gauche et le Rassemblement national. Le parti d'extrême droite a pourtant obtenu quelques concessions déjà de la part du gouvernement. Abandon de la hausse des taxes sur l'électricité et réduction de l'aide médicale d'État pour les sans-papiers. Mais il souhaite plus d'efforts de Matignon pendant tout le week-end. De nouvelles tractations ont eu lieu entre le RN et le gouvernement. Sans succès, Antoine Marette.
Par entêtement et sectarisme, la minorité gouvernementale met fin au cycle des négociations, au risque de provoquer la censure. C'est par ces mots que Jordan Bardella a réagi hier aux propos de Laurent Saint-Martin. Dans une interview au Parisien, le ministre des Comptes publics affirmait ne pas être prêt à faire de nouvelles concessions sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Parmi ces nouvelles concessions demandées par le RN, les renoncements à la désindexation partielle des retraites sur l'inflation et à la baisse de 5% sur le remboursement des médicaments. Rien aujourd'hui ne permet de garantir le redressement des comptes publics en allant plus loin que ce que l'on a déjà fait, a répondu Laurent de Saint-Martin. ajoutant « Le compromis n'est pas le chantage, il ne peut y avoir d'ultimatum ». Est-ce donc la fin de cette longue période de tractation ? Les propos de Marine Le Pen le laissent penser. Le gouvernement a exprimé son souhait de ne pas modifier le projet de loi sur le financement de la sécurité sociale. C'est extrêmement clair et nous avons pris acte de cela, a-t-elle déclaré. De son côté, Matignon affirme rester ouvert au dialogue. Lors de la mise au vote du PLFSS cet après-midi, le Premier ministre pourrait activer le 49-3, ce qui déclencherait le dépôt par la gauche d'une motion de censure. En cas de vote de cette motion par le RN, le gouvernement serait renversé.
Quoi qu'il advienne, les syndicats de la fonction publique appellent à la grève le 5 décembre prochain, en particulier contre l'éventualité évoquée par le ministre de la fonction publique, Guillaume Kasbarian, d'une augmentation du nombre de jours de carence pour les fonctionnaires en arrêt maladie. Un possible passage à 3 jours de carence au lieu d'un seul actuellement, qui posera notamment des difficultés dans l'éducation nationale. Les précisions sur ce cas particulier avec Wafia Kenich.
Être enseignant, cela signifie être au contact direct et permanent de plusieurs dizaines d'enfants. C'est le cas de Carole, 44 ans, qui travaille en maternelle en zone d'éducation prioritaire depuis 5 ans.
Lors des petits virus qui circulent en hiver, on est un peu en première ligne parce que on se fait tousser dessus, éternuer dessus également. Et voilà, on est surexposé, hein, on va dire, à tous ces petits microbes. Des enfants de 3 ans, 4 ans peuvent difficilement éternuer dans leur coude comme préconisent les recommandations. C'est pas possible.
Régulièrement, l'enseignante tombe malade et la plupart du temps, elle va tout de même travailler, à la fois pour son porte-monnaie et pour ses collègues.
On perd une journée de salaire. Il y a beaucoup moins de remplaçants qu'avant. Et ce qui fait que nos collègues se retrouvent avec nos élèves qui sont répartis. Donc c'est compliqué de s'arrêter. On s'en veut parce qu'on sait qu'au final, les personnes qui vont être impactés, ce sont nos collègues.
La perspective de 3 jours de carence est inimaginable pour elle et par ailleurs dangereuse.
Ce dont j'ai peur, hein, vraiment, donc c'est des profs qui vont pousser, pour ne pas perdre 3 jours de salaire, hein, et puis qui au final, en effet, vont être malades, mais bien malades, et peut-être plus que si c'était arrêté 3-4 jours, parce que ça leur prendra plus de temps pour récupérer. Donc une perte pour les enfants, une charge supplémentaire pour les collègues.
Le 5 décembre prochain, son école sera fermée. L'enseignante sera dans la rue à l'appel de l'intersyndicale de la fonction publique.
Wafia Kenich, enfin c'est un recours judiciaire qui pourrait devenir courant. Une coalition de grands médias canadiens a annoncé attaquer le géant de l'intelligence artificielle OpenAI en justice. Ils accusent l'entreprise américaine d'utiliser leurs travaux sans leur consentement pour alimenter son logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT. Parmi ces médias, on trouve entre autres le réseau de télévision CBS, Radio-Canada ou encore l'agence de presse La Presse canadienne. Pour Salima Benamou, économiste à France Stratégie, spécialiste d'intelligence artificielle, ce sont plutôt les pays qui doivent mettre en place des politiques communes à l'échelle internationale pour lutter contre ce modèle économique d'OpenAI qui pilonne les droits d'auteur. Notamment, écoutez-la.
Si OpenAI devait retrouver chacun des auteurs de contenu et leur verser des royalties, est-ce que le modèle d'économie d'OpenAI est viable ? Selon moi, la réponse est non. Ça pose vraiment la question des droits d'auteur, qui est extrêmement complexe et qui, aujourd'hui, n'est toujours pas tranchée. Je pense qu'il faut que l'ensemble des pays débattent et déterminent un cadre légal d'utilisation de l'intelligence artificielle par rapport à des besoins que les pays auront définis. Les États, au niveau international, doivent se poser la question sur l'arbitrage entre le coût économique, le coût social, le coût humain et le coût environnemental. Le New York Times a également eu la même démarche que les médias canadiens l'an dernier. Et donc aujourd'hui, on a plein d'actions qui sont disparates, mais ça, c'est très, très problématique.
Des propos recueillis par Sophie Volatier. Un mot rapide du temps de ce lundi. Peu de soleil, beaucoup de pluie. Il fera plus frais qu'hier, comptait de 8 à 13 degrés ce matin. Je suis vraiment désolée.
C'est joli,
de 11 à 16
et
cet après-midi.
Et en plus, c'est lundi.
Je vous retrouve à 7h30 pour le journal de l'Écho, consacré aux conséquences économiques de la catastrophe de Bhopal en Inde, 40 ans après. Pour l'heure, la suite des matins de France Culture, Guillaume Erner.
Merci tout de même, Anne-Laure Chouin, avec dans quelques secondes la question du jour de Marguerite Caton. Que sait-on du massacre de Tiaroy ? Et l'actualité du 7h14, c'est Napoléon.
Changez !
Oh Napoléon, nous avons mordu 6 pneus aujourd'hui. Couru après 4 autos, une bicyclette et une moto.
C'est grâce à moi qu'on a eu la victoire.
Arrête, trompette, c'est moi qui suis le chef. C'est moi qui décide.
Une grande et belle couronne d'or qui se pose sur la tête de monsieur.
Mais je ne me fais pas d'illusions, car si les choses sont ce qu'elles sont, c'est de la faute à Napoléon.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Marguerite Caton, bonjour.
Bonjour Guillaume et bonjour à tous.
Ce matin, l'histoire d'un massacre.
Oui, le massacre de Tiaroy, du nom du camp militaire situé à quelques kilomètres de Dakar, au Sénégal. Le 1er décembre 1944, il y a 80 ans, l'armée française ouvrit le feu sur des tirailleurs sénégalais tout juste démobilisés. Ils réclamaient leurs soldes. Le commandement cria à la mutinerie, une répression sanglante dont on n'a pas fini de faire l'histoire. Bonjour Martin Moore.
Bonjour Marguerite Caton.
Vous êtes historien, chercheur associé à l'Institut des mondes africains de l'EHESS. Merci d'être en ligne avec nous ce matin depuis Dakar, où vous co-organisez un colloque international sur Tiaroy. Alors, pour commencer, un mot de l'ampleur des commémorations qui se sont tenues hier au Sénégal. 5 chefs d'État africains aux côtés du président Bassirou Diomaye Faye, le ministre français des Affaires étrangères présent également. Le massacre de Tiaroy est un élément central aujourd'hui d'identité de l'histoire sénégalaise, Martin Moore.
Tout à fait. Alors hier, on a eu une très belle cérémonie hein, où le président de Diomaye Faye et les invités ont d'abord été au cimetière qui a toute une histoire en fait, hein, ce cimetière, je pourrais y revenir. Puis au camp où les invités étaient présents, hein, le public était présent, on a eu une gerbe de fleurs au cimetière, on a eu un très beau discours de Bassirou Diomaye Faye qui nous a été délivré donc dans un style qui est son style plutôt posé, calme. Il a rappelé les éléments qui étaient connus, aussi ceux qui restaient actuellement encore en débat. Il a évoqué Tiaroy comme vraiment un symbole du colonialisme. Ce que ça pouvait reprendre, ce que cet événement, ce drame pouvait représenter dans les relations entre la France et le Sénégal hein, pour le futur. Il a aussi déployé un agenda africain, un agenda sénégalais autour de cette question. Hein, notamment la mise en place d'un centre de documentation, la promesse que Tiaroy soit mieux enseigné et la volonté d'inscrire cet événement dans l'espace public.
Donc des annonces pour en renforcer la mémoire. Revenons au 1er décembre 1944, Martin Moore. Qui étaient les hommes présents alors dans le camp de Tiaroy? Qu'attendaient-ils?
Alors Tiaroy, je pense que c'est un des événements les plus sanglants du colonialisme français. Hein. Ce sont des soldats, les fameux tirailleurs sénégalais, qui en fait venaient de toute l'Afrique de l'Ouest, qui ont été victimes de la débâcle de 40 de l'armée française, qui passent 4 ans dans des fonds de stalag, dans des camps de prisonniers sur le territoire français, où ils sont gardés par la Wehrmacht, puis par leurs propres officiers français. Et à l'automne 1944, après la libération progressive du territoire, ils sont réunis, ils doivent être en voie de démobilisation. Ils embarquent depuis la Bretagne. Ils arrivent à Dakar le 21 novembre 1944. Et ils doivent être démobilisés et reconduits dans leur territoire d'origine. Hein. Donc voilà, toute l'Afrique occidentale française. Ils réclament le paiement de leur solde de captivité. Donc c'est l'argent qu'ils ont économisé en fait hein, pendant ces 4 années de guerre et qu'il leur est dû. Et l'armée française ne leur donne pas. Alors elle devait leur donner un quart à l'embarquement, les 3/4 au débarquement. Ce qu'elle ne fait pas, il y a un premier départ qui est prévu le 27 novembre en train. Les tirailleurs refusent de partir, ce qui occasionne la visite d'un général de division. Et c'est là que va se nouer en fait hein, le drame, hein, donc une opération de répression qui est montée à ce moment-là, hein, qui implique toute la haute hiérarchie militaire française, mais aussi le pouvoir politique présent à Dakar. Et le 1er décembre, à l'aube, une importante force militaire va encercler et pénétrer le camp. On va réunir les tirailleurs en leur ordonnant de se rassembler.
Et en oui, fait, plutôt que de payer, pardon, en fait, Martin Moore, ce que je comprends, c'est qu'on leur doit de l'argent et plutôt que de payer, là, l'armée décide de tirer dessus à l'automitrailleuse. On leur tire dessus. Le récit officiel fait état d'une mutinerie. Avant de poursuivre, je vous laisse poursuivre ensuite, mais les tirailleurs étaient-ils armés dans le camp?
Alors, les tirailleurs n'étaient pas armés. Il y a quelque chose de complètement irrationnel dans la décision de l'armée française de tirer sur ces hommes comme ça à l'automitrailleuse, et qui est il y a une dimension qui est de l'ordre du ressort psychologique sur lequel il faut continuer à investiguer.
C'est-à-dire
effectivement, il faut comprendre un petit peu qu'est-ce qui autorise l'armée française à ce moment-là à commettre un crime, un massacre de cette telle ampleur. Donc il y a plusieurs éléments qui sont de l'ordre de l'impunité. Alors moi, je subodore plutôt que les officiers à Dakar nient Paris devant les faits accomplis. Donc il y a des ressorts qui sont de l'ordre du racisme, peut-être de l'ordre de la spoliation des soldes. Mais ça, c'est voilà. Donc le fait de vouloir voler cet argent, en tout cas cet argent n'a pas été rendu, donc il y a eu des excédents budgétaires, et de manière plus générale, sur la nature du fait colonial, sur le fait qu'on puisse commettre un massacre de cette telle ampleur à Dakar.
Et les autorités militaires ont assez tôt dissimulé et falsifié les événements. Aujourd'hui encore, Martin Moore, on manque d'informations, ne serait-ce que pour évaluer le nombre de morts. Quelles sont les hypothèses les plus solides à l'heure actuelle ?
Alors effectivement, la position de l'armée va dire que c'était une mutinerie, et donc dans ce cas-là, elle va se mettre à fabriquer des faux documents, à fabriquer des fausses preuves, notamment celles que vous évoquez sur une liste d'armes qui va être produite une fois, plus jamais reproduite. Les éléments les plus importants aujourd'hui sont ceux du nombre de morts, sont ceux du lieu de leur inhumation et des listes nominatives. Et en fait, mettre une identité sur ces hommes qui sont morts. Plus généralement, il y a aussi une nécessité de comprendre un peu cette chaîne de commandement, savoir où se posent les responsabilités, où, quand est actée la volonté précise de tuer. Et plus généralement, c'est ce que je disais, c'est comprendre aussi d'un point de vue historique, analytique, comment on en arrive à un fait comme ça. Tiaro, il y a un événement de quelques minutes, mais qui s'inscrit dans la longue histoire des tirailleurs sénégalais, plus d'un siècle. Il n'y a que cet événement qui est sorti qui est très problématique, et qui est lié aussi au déchaînement de violence de la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, je pense qu'on a aussi des besoins de comprendre comment on a pu en arriver là.
Les archives de l'armée, donc, auxquelles on ne peut pas complètement se fier, disaient 30 ou 70 morts. Aujourd'hui, on a des estimations beaucoup plus hautes, mais il manque l'identité des morts, il manque leur sépulture. Et s'il n'y a pas eu des fouilles archéologiques sur le camp ou dans le cimetière, on soupçonne des fosses communes. Qu'est-ce qu'on sait, Martin Moore ?
Alors effectivement, il y a deux hypothèses. Soit on aurait encore des documents qui seraient conservés par le ministère des Armées. Une mission d'archiviste et d'historien sénégalais est partie en France, est revenue avant-hier. Bon, il y a quelques éléments nouveaux, mais pas de cet ordre. Et l'autre option pour connaître la vérité sur ces chiffres, ce serait celle de procéder à des fouilles. Ça a été posé depuis une vingtaine d'années, Alors aujourd'hui, malheureusement, on a une autoroute qui passe à côté et en partie sur l'actuel camp militaire. Ça avait été demandé par des historiens sénégalais, Cheikh Fatty Faye notamment. Ça n'a pas été fait par le gouvernement de l'époque pour des raisons pas très obscures. C'est reposé aujourd'hui par le gouvernement sénégalais. Donc, il y a un travail d'historien qui est en train de se mener. Le colloque que vous avez évoqué, dont je vous remercie, sera aussi l'occasion de débattre de ces enjeux-là. Et peut-être que l'autre option posée sur la table est effectivement de procéder, que l'État sénégalais procède à des fouilles.
Merci beaucoup Martin Moore. On comprend qu'il y a encore beaucoup de travail pour les historiens à Tiaroy. Merci d'avoir été avec nous depuis Dakar. Et c'est à vous Guillaume Werner.
Et bien voilà, vous montrez du doigt comme ça. Merci Marguerite Caton.
6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Les échos d'ailleurs, ils nous emmènent aux États-Unis avec l'économiste et prix Nobel Esther Duflo. Nous parlons de Thanksgiving.
Jeudi dernier, pour Thanksgiving, les États-Uniennes et les États-Uniens se sont barricadés en famille pour partager une dinde, puis regarder un match de football à la télévision avant de se préparer mentalement aux grandes soldes du Black Friday et à la dernière ligne droite vers les fêtes de Noël. Thanksgiving est une fête plutôt attachante aux États-Unis, sauf peut-être pour les dindes et les malheureux coincés dans d'interminables embouteillages ou les aéroports. Elle n'est ni confessionnelle, ni commerciale, ni partisane, célébrée par presque tous en famille. Friendsgiving, un repas entre amis avant ou après, vient aujourd'hui compléter un tableau à la Norman Rockwell. Les petits-enfants apprennent à l'école que Thanksgiving célèbre la mémoire d'un repas partagé à Plymouth par les Wampanoag et les Anglais à l'automne 1621. La légende ajoute aussi que la volaille et le maïs symbolisent l'aide donnée par les Wampanoag aux nouveaux arrivants. Il s'agissait en réalité d'une fête des moissons, et non pas d'une fête d'action de grâce, comme il s'en tenait par ailleurs de temps en temps à l'époque. Ce n'est que 400 ans plus tard, en 1863, en pleine guerre civile, que le président Lincoln proclama une fête annuelle d'action de grâce, ou Thanksgiving, le dernier jeudi de novembre. Ce mensonge originel n'est pas le plus sérieux. Celui de l'harmonie entre le peuple Wampanoag et les pèlerins l'est davantage. Moins d'une génération après ce premier repas, la guerre éclata entre eux et les Wampanoag finirent décimés et spoliés de leurs terres. L'histoire des Amérindiens est une tragédie aux États-Unis, non pas naturelle, mais orchestrée. Il ne s'agit pas de cow-boys et d'Indiens, mais d'une guerre brutale, avec l'intention explicite de détruire ces peuples. Je ne citerai que deux exemples. Au XVIIIe siècle, John Hammers, le commandant en chef des forces anglaises, recommandait au commandant du fort de Pitt d'envoyer aux Amérindiens des couvertures contaminées par le virus de la variole, afin, disait-il, d'exterminer cette race exécrable. Par la suite, pendant 150 ans, jusqu'à la fin du XXe siècle, les enfants amérindiens furent arrachés à leurs parents et envoyés dans des pensionnats afin, je cite, « d'exterminer l'Indien pour sauver l'homme », selon l'architecte de système Henry Pratt. Au pic, en 1926, 83% des enfants amérindiens étaient dans l'un de ces pensionnats. Un des derniers actes officiels de Joe Biden fut de s'excuser, au nom des États-Unis, pour les atrocités commises dans ce système. Mais les petits-enfants peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Inspiré par le Stop Woke Act de Ron DeSantis en Floride, l'administration Trump aura sûrement à cœur de ne pas les traumatiser avec une histoire qui pourrait les culpabiliser.
C'était les échos d'ailleurs de l'économiste et prix Nobel Esther Duflo. 7h26, l'heure du reportage de la rédaction. Souvent bien située et constructible, les terrains de sport attirent les promoteurs immobiliers et les mairies cèdent au détriment des associations sportives et des habitants. Un reportage d'Azaïs Perronin sur le bassin d'Arcachon.
Donc ça, c'est le fond du bassin, en fait. On voit la pointe, c'est Arcachon, hein, là-bas, en face.
Et de l'autre côté, c'est...
De l'autre côté, c'est le Cap Ferré. Au milieu, ça va vers l'océan. Vous comprenez pourquoi les promoteurs, quand ils font la publicité de la vente de leur appartement... Il y aura des photos, hein.
Jean-Charles Perruchot est né à Lenton, où il est aujourd'hui élu de l'opposition et se bat contre la destruction d'aménagements sportifs. À 100 mètres de la plage, le terrain de foot doit être vendu par la mairie à un promoteur immobilier, ainsi que les terrains de tennis, où joue Virginie Mallet, conseillère municipale.
Donc 3 ici et 2 un peu plus loin, juste au bord de la piste cyclable. C'est évidemment un terrain qui a une très très grande valeur pour les promoteurs immobiliers, parce que sur le bassin d'Arcachon, trouver... Plus de 2 hectares si proche du bassin, c'est évidemment une pépite. Et à mon avis, il y a beaucoup, beaucoup de pression et de concurrence pour l'acquérir. 2 hectares ici, si près du bassin, ça devrait être à tous et à tout le monde, et pas pour un promoteur immobilier.
La mairie prévoit de replacer les terrains de sport en périphérie de la commune, mais Jean-Charles Perruchot s'inquiète de l'avenir des clubs et du tissu associatif.
Le replacement des structures sportives ne sont pas définis. Et donc, il y a une grosse inquiétude de la part de ces clubs. Et le risque... C'est déjà de ne plus avoir d'école de foot, c'est de ne plus avoir non plus d'école de tennis, de jeunes et de moins jeunes qui pratiquent un sport très régulièrement. C'est aussi des salariés, c'est aussi toute l'inclusion qui est faite dans ces clubs pour intégrer des jeunes et des moins jeunes en situation de handicap. C'est une des grosses activités, notamment du tennis. Donc tout ça, ça fait partie d'un lien social et d'activités que l'on ne peut pas, comme ça, balayer de revers de manche.
Un lien social défendu aussi par Morane Beraou, président du club de football de Talent, une commune située à 700 km de là, près de Dijon. À cet endroit aussi, la mairie compte déplacer les terrains qui accueillent aujourd'hui 400 licenciés au cœur de la ville.
Les terrains actuellement, ils sont situés dans une zone pavillonnaire à proximité du Belvédère. Donc c'est vraiment le quartier populaire de la ville. Et en fait, ça permet aussi aux enfants, à travers le club, de rejoindre un milieu qui est un peu plus aisé, tout simplement, et de s'épanouir dans un endroit plus calme. Et pour ma part, ça a été un point de repère quand j'étais jeune. Ça m'a évité d'emprunter des chemins un peu plus sinueux. Et je suis pas confiant pour l'avenir. Le maire est revenu vers moi pour dire qu'il voulait avoir le monopole sur le foncier. Le maire, il a des ambitions qui sont purement financières, au détriment des bénévoles, au détriment des joueurs, au détriment de petites structures comme la nôtre, qui misons tout notre travail sur des projets tournés autour des valeurs humaines, citoyennes, et qu'on essaye de véhiculer à travers les enfants, quoi, tout simplement.
Talents comme Lanton sont deux cas de figure emblématiques des zones qui attirent les promoteurs immobiliers, selon Pierre Lebrun, ingénieur d'études à l'Université d'Avignon. Car d'après lui, leur objectif est de vendre le plus rapidement possible et ces situations géographiques s'y prêtent.
Lorsqu'on est sur des terrains centraux de type Dijon, ou lorsqu'on est sur des terrains socialement privilégiés et très attractifs, tels le littoral girondin, les promoteurs, a priori, anticipent une commercialisation facile à une clientèle plutôt privilégiée ou en tout cas relativement solvable. Et donc, c'est une opération qui, a priori, n'a pas de raison de ne pas rouler. Donc, dans tous les cas, il va faire son profit moyen. Et en fonction du profit moyen qu'il va anticiper, il va aller négocier aux services municipaux un prix maximum d'achat du terrain.
Du côté des mairies, les raisons qui les poussent à ces ventes sont multiples. La taxe foncière, la croissance d'une commune ou encore le moyen de négocier des aménagements pour la ville en contrepartie d'un permis de construire.
C'était le reportage de la rédaction signé Azaïs Péronin. Dans quelques instants, on va évoquer la Syrie avec une coalition de combattants djihadistes qui a conquis la deuxième ville du pays, Alep, en seulement 4 jours. 70 autres villes ont été conquises. On en parle dans quelques instants. Il s'agit, semble-t-il, d'un basculement dans la région. Et voici le journal de l'écho d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Ce matin dans le décryptage écho, on revient sur les conséquences économiques et sociales d'une catastrophe industrielle en Inde, à Bhopal. L'usine chimique de la firme américaine Union Carbide, aujourd'hui Dow, fabricant de pesticides, explosait et dégageait dans l'atmosphère 40 tonnes d'isocyanate de méthyle, contaminant toute la ville. 40 ans plus tard, elle est considérée comme le pire accident industriel de l'histoire. D'autant que des centaines de milliers de personnes ont ensuite été impactées par la contamination au gaz. On estime que 20 000 personnes au moins sont mortes, enfin que c'est le nombre réel de victimes de cet accident. Quant au coût économique, sanitaire et social de la catastrophe, on s'y penche. Ce matin, bonjour Côme Bastin.
Bonjour Anne-Laure.
Vous êtes le correspondant de France Culture en Inde. Justement, est-ce que 40 ans plus tard, on dispose d'une estimation du coût économique total de cette tragédie ?
Non, car c'est un calcul très complexe et que les ONG sur place n'ont pas les moyens de le réaliser. Et ce calcul, ni la multinationale incriminée, Dow Chemicals, ni le gouvernement indien n'ont aucune envie de s'y livrer. Et ça, c'est sans doute parce que ni l'un ni l'autre ne veulent connaître le coût immense du désastre de Bhopal depuis 1984. Un coût qui augmente par ailleurs chaque jour, puisque des victimes continuent de souffrir et mourir à l'hôpital et que même leurs enfants sont affectés. C'est ce qu'explique Rachna Dhingra, qui après avoir étudié aux États-Unis est venue s'installer à Bhopal en 2003. Elle est aujourd'hui l'activiste locale la plus célèbre.
Le coût économique de ces enfants qui ne sont pas allés à l'école parce que leurs parents étaient malades et qu'ils devaient travailler, ce genre de choses n'a jamais été calculé. Cela ajoute à la tragédie. Le gouvernement n'a jamais effectué d'études sur le coût exorbitant en termes socio-économiques et environnementaux de ce désastre. Ce que l'on connaît un peu mieux, c'est combien coûterait la dépollution du site contaminé de l'usine Carbide. Cela se chiffre évidemment en millions d'euros, mais ce n'est pas quelque chose que le groupe Dow ne peut pas payer.
Ce que souligne Rachna Dhingra, c'est que Bhopal n'est pas qu'un accident industriel, c'est aussi un crime qui est resté en grande partie impuni.
Et comme où en est-on de l'indemnisation et de l'aide aux victimes ?
Depuis 1984, Dow Chemical est accusé d'avoir tout fait pour échapper aux poursuites, avec des tactiques pour faire pourrir le dossier, retarder les échéances, ne pas se rendre au procès, refuser de reconnaître les juridictions indiennes comme compétentes. Finalement, le groupe Union Carbide n'a payé pour l'instant que 450 millions d'euros. Cela peut sembler beaucoup, mais par rapport au nombre de personnes à la vie définitivement ravagée, C'est très peu, quelques centaines d'euros en moyenne. Des ONG comme celle de Rachna ont récemment saisi la Cour suprême en Inde pour exiger plus de dédommagement, notamment parce que plus le temps passe et plus le nombre de malades, la gravité et la durée des symptômes empirent. Ce lundi, des activistes de Bhopal ont organisé un envoi de milliers de lettres au Premier ministre Narendra Modi, lui demandant d'agir. Si Bhopal est toujours d'actualité en 2024, c'est aussi parce que c'est un symbole de l'impunité des grandes entreprises et de l'impuissance ou de l'abandon de l'État.
Comme Bastin, merci. On précise qu'une majorité de survivants de la catastrophe continue de vivre aux abords du site, laissé à l'abandon par d'eau et toujours toxique. Un décryptage éco à retrouver à la page du journal de l'Écho sur le site de France Culture. On passe à l'actualité économique en bref avec la démission hier soir de Carlos Tavares, l'intraitable patron du groupe automobile Stellantis, pourtant écarté par ses actionnaires. Les ventes du groupe étaient en chute libre et Carlos Tavares avait laissé ouverte l'option d'un rapprochement avec un autre groupe, ce que ne souhaitait pas le conseil d'administration. Ces déboires en Amérique du Nord avec des véhicules à la qualité critiquée, des tarifs jugés trop hauts, auront eu raison de la marge opérationnelle à deux chiffres du groupe qui justifiait aussi son salaire astronomique. On y reviendra plus longuement dans le journal de 8 heures. Autre groupe automobile en mauvaise forme, Volkswagen, dont les salariés allemands sont appelés à cesser le travail ce matin pour s'opposer aux milliers de suppressions d'emplois prévues. Grève à l'appel du puissant syndicat IG Metall. Volkswagen souffre à la fois du ralentissement du marché des véhicules neufs, de la concurrence chinoise, de modèles à batterie pas assez attractifs et des coûts de main-d'œuvre plus élevés que ses rivaux. Donald Trump menace désormais les pays des BRICS, Brésil, Inde, Afrique du Sud et Émirats, notamment de droits de douane à 100% si, je cite, ces États sapent la domination du dollar. Certains de ces pays, en effet, envisagent de se passer du billet vert dans les échanges internationaux dans le but de réduire la domination occidentale dans le domaine financier. Ils envisagent de créer, par exemple, leur propre monnaie commune, un projet toutefois loin d'être abouti. Et puis rapidement en France, les sénateurs ont approuvé hier soir la partie recette du budget de l'État pour 2025, un vote émaillé de nombreux incidents de séance.
Le prochain journal, autrement dit le journal de 8 heures. De quoi va-t-on parler, Anne-Laure ?
Margot Delpierre, on le disait, reviendra sur cette démission du PDG de Stellantis, Carlos Tavares. Nous serons en Roumanie également, où les sociaux-démocrates pro-européens sont arrivés en tête des législatives sur fond de fortes percées de l'extrême droite. Et puis les députés français s'apprêtent à étudier une proposition de loi sur les mineurs délinquants.
Merci beaucoup, Anne-Laure Chouin.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Catherine Dutu, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
Votre revue de presse internationale, Le Monde perd la lutte contre les gangs, et ce, à l'échelle internationale.
C'est le titre alarmiste d'un long article de The Economist. Le crime organisé profite de la mondialisation comme jamais, des progrès technologiques pour étendre son empire économique, confirme aussi l'ancien patron d'Interpol, Jürgen Stock, qui vient de passer la main après 10 années passées à la tête de l'organisation internationale de police criminelle. Son travail s'est compliqué au fil du temps. Il y a une dizaine d'années, explique The Economist, la plupart des courriels n'étaient pas cryptés. La police et les services de renseignement pouvaient facilement les lire. Mais aujourd'hui, presque tout le monde a accès à une messagerie sécurisée, ce qui permet aux criminels d'agir en secret pour vendre des produits illicites avec paiement en crypto-monnaie difficilement traçable. J'ai déjà d'ailleurs parlé le mois dernier des trafiquants de drogue en Russie qui utilisent le Darknet pour tisser leur toile jusqu'en Ukraine et en Corée du Sud. Chaque progrès apporte une nouvelle menace, selon le chef anti-cybercriminalité d'Interpol. Nous commençons à voir des gens utiliser ChatGPT pour rédiger des messages visant à escroquer des internautes. Ce type de vol, ainsi que les rançongiciels ou ransomware, sorte de chantage numérique où les pirates informatiques chiffrent les données de particuliers, d'entreprises ou d'institutions, puis demandent de l'argent pour remettre les choses en ordre, ce trafic trafic donc aurait rapporté plus de 7,5 milliards de dollars l'an dernier, indique The Economist. Et attention, précise le magazine britannique, tout l'argent ne va pas qu'aux criminels. La Corée du Nord dirigerait une unité de 10 000 hackers qui fournissent la moitié des revenus en devises étrangères du pays, principalement grâce au vol de crypto-monnaies. Ces cybercriminels s'en prennent aussi au programme de défense sud-coréen, ajoute le journal Korea Jun Hang Daily. Et puis, en Asie du Sud-Est, si la pandémie de Covid a vidé les casinos du Triangle d'Or entre Birmanie, Laos et Thaïlande, elle a aussi accéléré le passage aux jeux d'argent en ligne, avec là encore à la clé escroquerie, fraude et blanchiment d'argent, rapporte The Economist.
Autre explication derrière l'extension du crime organisé, c'est l'explosion de la consommation des drogues.
Alimentée en partie par la diffusion des drogues de synthèse, le nombre de consommateurs de drogues a augmenté de 20% entre 2010 et 2020 et les drogues sont de plus en plus puissantes, souligne The Economist. Le fentanyl est 50 fois plus puissant que l'héroïne. Plus de 100 000 morts chaque année aux États-Unis à cause de cette drogue, rapporte le Washington Post. Le fentanyl, source de tensions diplomatiques aussi, rappelle El País America, entre Donald Trump et son voisin mexicain, à qui le président républicain veut imposer une augmentation de 25% des droits de douane. Le New York Times nous apprend que désormais, les cartels mexicains cherchent à synthétiser les composés chimiques, ce qu'on appelle les précurseurs essentiels à la fabrication du fentanyl, afin de ne plus avoir à importer ces matières premières de Chine. Et pour arriver à leur fin, les narcos recrutent des étudiants en chimie directement dans les universités mexicaines, précise le New York Times. Leur terrible mission, rendre le fentanyl encore plus puissant, rendre les gens encore plus accros.
Autre exemple de cette nouvelle mondialisation criminelle, les gangs albanais.
Ils se sont infiltrés en Équateur, pays coincé entre la Colombie et le Pérou, les deux plus grands producteurs de cocaïne au monde, rappelle The Economist et le quotidien équatorien El Comercio, un jeu de dominos compliqué. Attention, depuis que la guérilla des FARC a officiellement déposé les armes en 2016 et depuis l'arrestation du chef du cartel mexicain de Sinaloa, tous les deux collaboraient pour expédier la cocaïne de la Colombie vers le port géant de Guayaquil en Équateur, eh bien la mafia albanaise s'est engouffrée dans ce trafic laissé sans grand parrain, si l'on peut dire, comme l'explique Inside Crime, Télégraphie, site d'information albanais, ou encore la chaîne télévisée Des News.
La mafia albanesa, lo que hace acá en Ecuador es buscar emisarios, es buscar gente que esté dispuesta a colaborar.
Ce que fait la mafia albanaise ici en Équateur, c'est chercher des gens qui sont prêts à collaborer avec elle, à être des partenaires dans ce crime transnational. De la cocaïne part ainsi du port de Guayaquil, le plus grand du pays en Équateur, vers l'Espagne notamment, vers l'Italie, la Turquie ou encore la Russie, énumère au micro de DNews Hernán Moreano, spécialiste en sécurité. Et comme les bananes sont le premier produits d'exportation de l'Équateur, c'est dans ces fruits que la mafia albanaise cache de la cocaïne. Elle blanchit également de l'argent dans des biens immobiliers, des voitures de luxe par exemple. C'est ce qu'a saisi la police cette année en Équateur, mais aussi en Espagne, à Barcelone, à Valence, Marbella et Malaga, rapporte le journal en ligne Infobae. Une trentaine de personnes ont également été arrêtées. Mais ces opérations coordonnées entre différents pays sont trop rares. Chaque police est un peu trop attachée à son précaré, regrette Steven Cavano, le directeur exécutif d'Interpol pour les services de police, lui qui a dirigé la police d'Essex, un comté anglais d'un million et demi d'habitants, explique The Economist. Cet homme explique que le budget de son ancienne police était deux fois plus élevé que son budget actuel à Interpol.
Et enfin, Catherine, vous nous parlez des mots de l'année.
On approche de la fin 2024 et l'Oxford Dictionary choisit donc son mot de l'année. Brain rot, indique la BBC, littéralement la pourriture du cerveau, comme l'explique la RTBF et Radio-Canada. Alors c'est peut-être, Guillaume, je ne sais pas, si vous passez beaucoup d'heures à faire défiler sans réfléchir les réels, les courtes vidéos d'Instagram et TikTok. Je vous suis, hein, bien sûr, Guillaume, sur TikTok, avec des conséquences néfastes qui touchent même notre langage, si l'on reprend par exemple des mots comme « à tout bout de champ pour parler du charisme de quelqu'un, explique SBS News. The Economist préfère, lui, le mot de « kakistocratie » pour parler du règne du pire avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et ses nominations contestées jusque dans le camp républicain. Dernier exemple en date, note le Washington Post et le New York Times, le choix de Kash Patel pour diriger le FBI. Il avait notamment expliqué que les bureaucrates du gouvernement œuvraient contre Donald Trump, le fameux Deep State, l'État profond. Il compte désormais arrêter les journalistes qui seraient opposés au président élu aux États-Unis.
Merci beaucoup Catherine Dutu pour cette revue de presse internationale. On reste à l'étranger. Dans quelques instants, on va évoquer ce qui est en train de se dérouler en Syrie avec des rebelles anti-Assad qui ont pris le contrôle d'Alep et un vrai tournant dans cette région au Moyen-Orient.
LSD part à la rencontre des poissons et mammifères aquatiques qui peuplent les mers, océans et rivières de notre planète recouverte à 70% d'eau, à la découverte de leur diversité et de leur mode de vie.
Le poisson qu'on voit beaucoup et qui est en banc, c'est la sope. C'est très beau et ils sont très lumineux aussi.
LSD, la série documentaire « Comme un poisson sous l'eau » d'Élise Gruau, réalisée par Agnès Catou, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Pierre, feuilles, vitraux. Notre-Dame de Paris, après 5 ans de travaux, la cathédrale rouvre ses portes.
Xavier Mauduit.
Retraçons l'histoire de Notre-Dame de Paris à partir de ses matériaux. Puisqu'il s'agit d'un livre de pierre, selon Victor Hugo, mais aussi d'un livre de verre avec les vitraux de la Discorde. Et une cathédrale bien charpentée avec ses chaînes haute fidélité. Notre-Dame de Paris, riche de parchemins, l'histoire d'une bibliothèque médiévale.
Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h sur France Culture, franceculture.fr. Et l'appli Radio France. Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et aujourd'hui, nous évoquons ce qui est en train de se dérouler en Syrie, avec un véritable tournant inattendu, une surprise, en tout cas pour les observateurs non éduqués sur ce qui se déroule véritablement là-bas. Les rebelles anti-Assad ont donc pris le contrôle d'Alep, une coalition de combattants djihadistes, a conquis la deuxième ville du pays, et ce, en seulement 4 jours. Pour en parler, nous sommes tout d'abord en duplex avec Fabrice Balanche, bonjour. Vous êtes maître de conférence en géographie à l'Université de Lyon 2 et chercheur associé au think tank, le Washington Institute. On vous doit les leçons de la crise syrienne, un livre paru chez Odile Jacob. Et puis ici même dans ce studio, Arthur Quenet, vous êtes docteur en sciences politiques affilié à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes le co-auteur avec Gilles Doron-Sauron et Adam Baxo aux éditions du CNRS de Syrie, anatomie d'une guerre civile. Peut-être quelques mots donc sur ce qui s'est déroulé à Alep avec donc un groupe djihadiste qui a pris le contrôle donc de manière très facile, très aisée de cette ville.
Eh bien, on s'attendait à une attaque de HTS depuis des mois. HTS ne cachait pas son envie d'attaquer son désir d'attaquer et de passer le front, reconquérir Alep. La grande surprise, c'est l'effondrement de l'armée, de l'armée syrienne sur le front, qui est dû, on y reviendra sûrement, sur les transformations du rapport de force dans la région.
Bon, alors tout d'abord, ce groupe HTS, moi j'ai lu HTC, mais qu'est-ce qu'il signifie ce groupe? Ce sont donc, semble-t-il, des djihadistes qui sont liés à Al-Qaïda?
Alors non, pas du tout. Le terme djihadiste peut-être doit être révisé, donc c'est un groupe islamiste armé.
J'ai lu ça dans le New York Times.
Certainement, dans le New York Times. Ayat Tahrir al-Sham, donc HTS, c'est donc un groupe qui fait issu de l'État islamique d'Irak, hein, qui est envoyé en 2011 en Syrie, qui forme le Jabhat al-Nusra pour prendre le contrôle des zones révolutionnaires et d'une partie du pays. En 2013, il y a une scission entre les cadres syriens du Jabhat al-Nusra qui vont entrer en guerre contre l'État islamique. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ils se rapprochent d'Al-Qaïda, mais ça n'a pas duré. Finalement, ils vont prendre leur distance. Et depuis une dizaine d'années, donc c'est un groupe qui tient la région d'Idlib et qui tente deux choses. Premièrement, ils luttent contre l'État islamique et contre les dernières forces réminiscentes d'Al-Qaïda. C'est une guerre existentielle. C'est soit eux, soit l'État islamique. Donc, ils collaborent par exemple avec les forces occidentales, notamment américaines, pour traquer les dernières cellules de l'État islamique à Idlib. Et par ailleurs, ils n'ont jamais été drônés par les Américains. Et la deuxième chose qu'ils tentent, c'est politiquement, c'est tenter de se normaliser comme un groupe révolutionnaire syrien et tenter d'ailleurs une expansion vers les autres zones révolutionnaires tenues notamment par des groupes affiliés à la Turquie, on y reviendra. Mais peut-être un point intéressant pour un exemple intéressant pour signifier ça, c'est un groupe qui par exemple, ses modes de gouvernance de plus en plus relèvent de l'islam populaire syrien, c'est-à-dire du soufisme. C'est-à-dire que la ligne idéologique du groupe est de moins en moins salafiste, et en fait on peut... son identité a extrêmement changé. Par exemple, 60% des imams à Idlib sont d'obédience soufie, et le groupe, l'école de jurisprudence dominante maintenant au sein du groupe, c'est le chafiisme, c'est-à-dire une école de droit proche du soufisme et farouchement opposé au salafisme.
Bon alors, je vais continuer à vous dire ce que j'ai lu dans la presse et vous allez me dire ce que vous en pensez. Dans l'Humanité du jour, donc là on n'est plus dans le New York Times, l'Humanité évoque un mouvement qui est soutenu par un axe américano-israélien.
Alors je ne sais pas où ils ont eu cette information, c'est absolument faux. HTS rêverait d'un contact avec les Américains, mais ne l'a jamais eu, je peux vous le certifier. Jolani répète régulièrement qu'il se voit comme le nouveau Zelensky de Syrie, donc donnez-moi des manpads et je vais m'occuper des Russes dans le pays. Il n'en est rien, évidemment. C'est tout juste si HTS a des contacts avec la Turquie.
Alors là aussi, HTS est présenté comme étant une force turque, ou en tout cas armée par la Turquie.
Alors, ce qui s'est passé, c'est... Alors, l'armée turque déteste HTS. Pour eux, c'est un mouvement terroriste. L'armée turque très encore assez kémaliste et opposée à toute forme de mouvement salafisme. Néanmoins, donc, comme je disais, HTS a changé. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, HTS a subi une énorme défaite militaire face à la remontée du régime et ses alliés qui ont repris à l'époque 30% de la région d'Idlib. Et face à un désastre militaire qui aurait conduit les 3 millions de déplacés de la poche d'Idlib à partir vers la Turquie et ensuite vers l'Europe. La Turquie a déployé 15 000 soldats à Idlib et depuis, les deux sont contraints de collaborer ensemble.
Bon, je vais quand même vous lire ce passage du New York Times, donc, qui explique que ce groupe HTS était lié tout d'abord à Al-Qaïda avant donc, de rompre avec, et qu'aujourd'hui on peut considérer que des rebelles armés par les Turcs ont rejoint ce groupe, donc ça c'est quelque chose que vous contestez.
Alors en fait, il y a deux offensives en cours en fait, côté rebelles contre le régime actuellement, depuis quelques jours. Vous avez l'offensive de HTS, avec d'autres groupes proches, plus ou moins autonomes de la Turquie, qui l'ont rejoint dans cette première vague d'offensive. Et le deuxième axe de l'offensive, c'est les groupes soutenus par la Turquie, l'armée nationale syrienne, qui sont là, c'est une multitude de groupes financés par la Turquie et contrôlés pour le coup par l'armée turque, qui eux se sont lancés à l'assaut du nord de Alep, mais avec beaucoup de retard il y a deux jours.
Donc ça veut dire qu'on a une sorte de coalition anti-Bachar ?
C'est ça. On pourrait parler d'une coalition. Et maintenant, l'enjeu, ça va être, on va le voir sur la gouvernance d'Alep qu'ils vont mettre en place, comment ils vont se partager le pouvoir.
Fabrice Balanche, vous êtes en duplex avec nous. Quel regard portez-vous sur ce groupe, donc Ayad Tarim al-Sham, donc ce groupe qui aujourd'hui a non seulement pris le contrôle d'Alep, mais celui d'environ 70 localités, si j'en crois donc les informations aujourd'hui disponibles.
Oui, bah, je vais revenir un petit peu sur ce qui a été dit, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord. En juillet 2011, Abu Mohamed al-Jolani vient d'Irak avec un groupe issu d'Al-Qaïda, hein, puisqu'il avait rejoint Al-Qaïda en Irak dans sa jeunesse pour se battre contre les Américains. Donc, ils fondent le front Al-Nosra, qui appartient à Al-Qaïda. Et j'en veux pour preuve le fait qu'il a lui-même demandé à Ayman al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, en 2013, de trancher le différend qu'il avait avec al-Baghdadi, le chef de Daesh, qui voulait faire scission. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que la France a considéré qu'il fallait le mettre sur la liste des organisations terroristes. En 2016, effectivement, il change de nom. Il devient Hayat Tahrir al-Sham. Et à ce moment-là, il ne renouvelle pas son allégeance à Al-Qaïda. Mais c'est un divorce à l'amiable. C'est-à-dire qu'en 2016, vous avez les Russes qui sont à Alep, qui sont en train de prendre la ville avec l'appui de l'Iran et du régime syrien. Et pour avoir du soutien de la part des Occidentaux, de la Turquie, etc., HTS le front al-Nosra prend ses distances avec Al-Qaïda d'un point de vue tactique, mais pas d'un point de vue idéologique. Et ça, il faut que ça soit très clair. Dans la coalition menée aujourd'hui par HTS contre Alep, vous avez Hulas ad-Din, les gardiens de la religion, membres d'Al-Qaïda. Vous avez le parti islamiste du Turkestan, des Ouïghours, membres d'Al-Qaïda, spécialistes de l'attentat suicide. Donc, il faut quand même être très clair là-dessus. Ce qu'a créé Al-Julani à Idlib, c'est à peu près l'équivalent de ce qu'avait fait Daesh à Raqqa. Les exactions en moins, parce qu'ils cherchent à se donner une bonne image du point de, vis-à-vis des Occidentaux. Mais il ne faut pas penser que c'est des gens qui sont en train de devenir un islam modéré. Bien au contraire, ils jouent ce qu'on appelle la taqiya, c'est-à-dire la dissimulation, pour s'emparer de cette région. Tactiquement, du côté occidental, effectivement, on a intérêt à les soutenir. Moi, je vous cite Jim Jeffrey, l'ancien envoyé spécial pour la Syrie 2017-2020, dans ses confidences au journal Frontline, qui explique que l'objectif des États-Unis, c'est d'empêcher la victoire d'Assad et de ses alliés. Par conséquent, Hayat Tahrir al-Sham, dans ce dispositif, il a une place privilégiée, d'autant plus qu'il ne représente pas, pour les Occidentaux, une menace, tout du moins à court terme, parce que contrairement à Daesh, il n'est pas intéressé par le djihad international. Mais vous avez un totalitarisme islamique qui s'est imposé à Idlib. Ils ont éliminé tous les opposants, qu'ils soient...
vous voulez dire aujourd'hui même.
Islamistes modérés. Aujourd'hui même, bien sûr.
Alors, en termes d'exactions, pardonnez-moi Fabrice Balanche, oui. Comme vous êtes en duplex, je ne vous vois pas. J'ai sur... X, autrement dit, sur les réseaux sociaux, donc là aussi, évidemment, impossible de savoir si c'est avéré ou pas, mais on parle d'exactions commises par HTC à Alep, notamment, par exemple, contre des femmes kurdes. Est-ce que vous avez confirmation ou infirmation de ce genre de fait ?
Bon, c'est difficile à vérifier aujourd'hui parce que vous avez évidemment une guerre de l'information qui arrive. Il y a des femmes, des Peshmerga, qui sont des femmes donc qui sont venues au secours de la population civile d'Alep, la population kurde, puisque vous avez un quartier kurde à Alep, Sher Maksoud, et une enclave kurde au nord au nord d'Alep. Il se peut qu'il y ait eu des femmes qui ont été faites prisonnières. Et évidemment, on se doute bien ce qui va leur arriver entre les mains de ce groupe. Le viol, les exactions, bien entendu.
D'accord. Et toujours pour poursuivre par rapport aux informations dont on dispose, est-ce que selon vous, ce groupe est soutenu par les Américains, les Israéliens, ou bien au contraire, s'agit-il d'un groupe qui, comme le dit le New York Times, est considéré comme un groupe terroriste pour les États-Unis ?
C'est un groupe terroriste considéré comme tel par les États-Unis depuis décembre 2012 et par la France depuis mai 2013. Même s'ils ont changé de nom entre-temps, on a bien compris qu'ils n'avaient pas changé de fonctionnement. Ensuite, ils profitent effectivement de l'affaiblissement du Hezbollah, de l'axe iranien, du régime syrien pour s'emparer d'Alep, ça c'est très clair. C'est un effet domino, je dirais, de l'offensive israélienne au Liban.
Et alors, donc,
Ça ne veut pas dire que les Israéliens soutiennent évidemment HTS ou que les Américains le soutiennent. Par contre, la Turquie est à la manœuvre. C'est très clair, puisque nous avons une offensive coordonnée entre Hayat Tahrir al-Sham et ce qu'on appelle l'armée nationale syrienne, c'est-à-dire les rebelles pro-turcs qui sont venus depuis l'Est pour attaquer également Alep depuis l'Est. La Turquie cherche à avancer ses pions dans la région et à bousculer le régime d'Assad. Ils ont à minima donné leur feu vert à Hayat Tahrir al-Sham pour cette opération.
Bon, eh bien écoutez, nous avons je crois deux visions diamétralement opposées. Arthur Kenney, donc sur ces différents points, et que voulez-vous répondre ?
Eh bien oui, le Hayat Tahrir al-Sham est un groupe armé qu'on porte de manière autoritaire. La répression qui mène à Idlib contre les autres groupes, y compris contre certains activistes, est réelle. Néanmoins, sur le plan de l'idéologie, le groupe s'est transformé et a évolué. Notamment, pourquoi ? Parce que politiquement, il se doit d'obtenir le soutien de la population. Une population de 3 millions d'habitants. HTS a très très peu de moyens de gouvernance, à peine 9 000 employés pour tenir cette zone. Et dans cette figure, il doit en fait déléguer le pouvoir à des conseils locaux et à des groupes d'anciens révolutionnaires. Et les cadres d'HTS ont eux-mêmes beaucoup changé. Sur la question des exactions, il n'y a quasiment pas d'exactions qui ont été commises. J'étais encore ce matin au téléphone avec des gens à Alep, y compris des forces kurdes. Ils sont tous étonnés sur le fait qu'il y a très peu d'exactions. HTS a mis en place des sanctions extrêmement strictes pour tout militant qui commettrait des exactions contre les civils, des militants d'HTS, mais également d'autres groupes alliés. Ensuite, sur la question de ce qui se passe entre la coordination entre HTS et les groupes pro-turcs qui ont lancé l'attaque dans l'est et dans le nord d'Alep, il y a de la coordination, c'est-à-dire qu'ils ont fait ensemble une offensive sur Tel Rifat, qui est la dernière poche kurde qui est tombée hier au nord d'Alep. Néanmoins, pour l'instant, ça s'arrête là. Et on ne sait pas à quel point les renforts, ces groupes pro-turcs vont descendre sur Hama pour participer à la bataille de Hama.
Que peut faire aujourd'hui Bachar al-Assad? Il y a eu donc une intervention de l'aviation russe qui a bombardé des poches présentées comme étant des poches rebelles. Arthur Kenney, quelles peuvent être les conséquences de cette action militaire?
Aucune. Aucune action aérienne sans soutien au sol ne peut aboutir à la reprise d'Alep. Donc pour l'instant, c'est de la vengeance. Les Russes tapent les civils comme ils savent le faire un peu partout dans le monde. Et ça s'arrête là, ils sèment la terreur.
Qu'est-ce que vous en pensez, Fabrice Balanche?
D'un point de vue tactique, effectivement, bombarder la ville d'Alep par l'aviation, ça ne servira pas à grand-chose, puisque les djihadistes sont répandus dans la ville. Évidemment, ils ne sont pas fous, ils occupent les rez-de-chaussée, étant protégés par plusieurs étages de civils. Bon, cela dit, ça ne dérange pas énormément Assad de bombarder les civils, on l'a bien vu dans le passé, mais tout de même, c'est plus difficile d'atteindre les djihadistes, donc ça serait un peu peine perdue. En revanche, ce qu'il peut faire, c'est un tapis de bombe sur Idlib, là où se trouvent justement les familles des djihadistes, pour obliger HTS à évacuer la ville. Je ne sais pas si ça fonctionnera, mais en tout cas, ça peut être une stratégie.
On se retrouve dans une vingtaine de minutes. On va essayer de voir dans quelle mesure cette offensive des djihadistes sur Alep est ou non une manière de constituer un tournant dans l'évolution donc du Proche-Orient. Nous sommes en compagnie d'Arthur Kenney. Vous avez notamment publié